Il est 21h à Bamako et à Kidal, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission avec cette nouvelle attaque en Somalie. Près de 40 personnes ont été tuées à la frontière éthiopienne par les milices Al-Shabaab. Nous serons ensuite au Mali, où les autorités ont enfin donné le bilan des affrontements meurtriers de mercredi dernier. Le Comité international de la Croix-Rouge a lui pu rendre visite à 50 prisonniers à la suite de ces récents affrontements. Au Niger, enfin, le gouvernement et Areva ont signé cet accord tant attendu pour le renouvellement du contrat d'exploitation des mines d'uranium. Si les deux parties prenantes ont dû faire des concessions, cela ne satisfait pas totalement la société civile nigérienne. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir, Jacques Aristide au micro, ravi de vous retrouver pour ce dernier tour d'horizon de l'actualité. La présidentielle en Égypte a été prolongée pour une troisième journée pour permettre au plus grand nombre de voter d'après les autorités du Caire. L'ancien ministre de la Défense, Abdel Fattah el-Sissi, est assuré de l'emporter. L'ex-chef de l'armée a chassé du pouvoir et fait emprisonner le président islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier. Les médias d'État et privés du pays évoquaient une participation relativement faible à ces deux derniers jours de vote, alors que le gouvernement a décrété mardi jour férié et prolongé les heures de vote pour inciter davantage d'électeurs à se rendre aux urnes. Au Nigeria, au moins 45 membres des forces de sécurité ont été tués hier dans une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram. L'assaut a eu lieu à Bouniyadi, dans l'état de Yobe, dans le nord-est du pays. Pendant ce temps, les recherches continuent pour retrouver des centaines de lycéennes enlevées par le même groupe islamiste depuis la mi-avril. L'armée a dit savoir où se trouvent les jeunes filles, mais ne peut pas le révéler. Quant à l'ancien président Olusegun Obasanjo, il aurait engagé des pourparlers indirects pour tenter d'obtenir leur libération, mais aucun commentaire du gouvernement d'Abuja à ce sujet. De son côté, l'armée camerounaise a déployé des renforts près de sa frontière avec le Nigeria pour faire face à la menace Boko Haram. Le président camerounais Paul Biya et son homologue tchadien Idriss Déby Itno ont déclaré la guerre au groupe nigérian après leur rencontre cette semaine à Yaoundé. Nouvelle attaque en Somalie, près de 40 personnes ont été tuées dans un village à la frontière avec l'Éthiopie, un acte attribué aux islamistes d'Al-Shabaab. Al-Shabaab qui a revendiqué l'attentat de samedi soir dans un restaurant de Djibouti. Les militants islamistes ont déclaré avoir visé des Français et leurs alliés de l'OTAN. L'attentat, le premier revendiqué par les Shabaab à Djibouti, a fait 3 morts et au moins une vingtaine de blessés. Mali, 39 des 48 blessés de l'armée malienne sont arrivés à Bamako. Dès leur arrivée dans la capitale, ils ont été répartis dans différents hôpitaux. En République centrafricaine, le calme est revenu dans les 5e et 3e arrondissements de Bangui. Les crépitements d'armes ont cessé et les activités ont même repris ce mardi sur le site des déplacés de l'aéroport de la capitale. En Libye, le nouveau chef du gouvernement, Hamed Mitig, a été la cible d'une attaque perpétrée aujourd'hui par des hommes armés. Des tirs ont été entendus très tôt ce matin autour de son domicile à Tripoli, la capitale. Il s'agissait d'une attaque à la roquette et aux armes légères, d'après un porte-parole qui affirme que Hamed Mitig et sa famille en sont sortis indemnes. Même s'ils se trouvaient à la maison durant l'attaque, deux des assaillants ont été blessés, d'après le même porte-parole.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Moscou demande l'arrêt immédiat de l'opération militaire de l'Ukraine contre les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Le président Vladimir Poutine a appelé l'Ukraine à mettre fin aux opérations punitives et à ouvrir le dialogue pour la paix. À Kiev, cependant, les autorités disent vouloir maintenir l'offensive jusqu'à la reddition ou la destruction des rebelles. En Syrie, des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont été attaqués, mais ils sont sains et sauf, selon l'agence onusienne. On ignore pour l'instant le lieu et les auteurs de l'attaque. Les inspecteurs se rendaient sur l'un des sites où des présumées attaques au gaz ont été perpétrées. Et puis l'armée thaïlandaise a arrêté un ministre du gouvernement déchu quelques minutes après qu'il a déclaré que le coup de la semaine dernière n'a aucune légitimité. Le ministre Chaturon Chaisong a dit que le putsch ne fera qu'aggraver la crise politique en Thaïlande. Les militaires ont détenu la plupart des membres de l'ancien gouvernement.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission avec cette nouvelle attaque meurtrière en Somalie. Près de 40 personnes ont été tuées dans un village à la frontière avec l'Éthiopie, un acte attribué aux islamistes d'Al-Shabaab. Les explications de Bagassi Koura.
Le gouverneur de la région de Bakoul en Somalie, Mohamed Abdi Tall, a indiqué que des membres du groupe Al-Shabaab ont attaqué tôt ce matin le village de Ato, près de la frontière avec l'Éthiopie. Selon lui, 27 membres d'une milice locale et 12 combattants islamistes ont été tués et le village est resté sous le contrôle des milices qui collaborent avec les gouvernements des deux côtés de la frontière. Al-Shabaab a perdu la plupart du territoire qu'il contrôlait en Somalie, mais l'organisation liée à Al-Qaïda constitue toujours une menace. Samedi dernier, les combattants d'Al-Shabaab ont pris d'assaut le Parlement à Mogadiscio. 10 membres du personnel de sécurité, 8 militants d'Al-Shabaab avaient été tués et 4 députés blessés.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 99 FM, notre fréquence à Abidjan. Direction le Mali pour notre dossier. 50 soldats tués, 40 blessés, c'est donc le bilan des affrontements meurtriers du mercredi 21 mai 2014 à Kidal. L'information a été donnée par le ministre malien de la Défense. Selon Soumaïlou Boubey Maïga, l'armée malienne n'a perdu que sa position à Kidal. Elle reste bien présente dans toutes les autres localités et travaille avec ses alliés. Pour plus de précisions sur ces informations données par le ministre malien de la Défense, retrouvons notre correspondant Kassim Traoré à Bamako.
C'est la première fois qu'une autorité malienne donne le bilan chiffré de l'affrontement du mercredi dernier entre l'armée malienne et les groupes rebelles. 50 soldats sont morts et 48 ont été blessés dans les combats. Soumaïlou Boubey Maïga, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali.
Nous sommes sur l'ensemble de nos positions dans la région de Kidal, à savoir à Tessalé, à Galok, et puis dans la région de Gao, à Menaka, en Songo et à Moustarat. Concernant un office dont nos troupes s'étaient retirées pour se réorganiser, nous sommes en phase de redéploiement. On avait voulu le faire hier, mais compte tenu des affrontements intercommunautaires qui se déroulaient dans les environs de Tabankort et tout ça, nous avons attendu de mieux évaluer les conditions de sûreté avant de nous redéployer.
Après cet affrontement, l'armée malienne est en train de renforcer ses positions dans les autres localités du nord.
Nous avons, dans ce cadre-là, dans la zone du Mema, renforcé nos dispositifs et puis nous sommes un peu plus attentifs dans le secteur de Tombouctou parce que vers la frontière avec la Mauritanie également, il y a des tensions intercommunautaires qui peuvent avoir un impact sur notre dispositif global.
Les militaires maliens, selon leur chef, ont le moral au beau fixe pour accomplir les défis qui les attendent.
Les défis que nous avons dans cette partie du territoire restent intacts et donc nous serons toujours appelés à veiller à l'intégrité territoriale du pays, veiller à la sécurité des personnes et des biens. C'est vrai, du point de vue du bilan, nous avons eu une cinquantaine de morts, malheureusement, 48 blessés. De l'autre côté, on ne connaît pas leur bilan.
Ce premier bilan donné par le ministre de la Défense a permis à beaucoup de Maliens de se calmer et qui pensaient qu'il y a eu un carnage à Kidal. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Mali toujours, le comité international de la Croix-Rouge a pu rendre visite à 50 personnes détenues à la suite de ces récents affrontements à Kidal. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le HCUA, a fait 32 prisonniers et le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le MNLA, en détient, lui, 18. Camille Grodidier a joint Valérie Mbao-Nana, responsable du CICR au Mali, après cette visite.
Pour l'instant, nous avons pu rapidement leur donner une petite assistance d'urgence, notamment des nattes et puis des produits d'hygiène, parce que c'est très important qu'ils puissent au moins avoir ce minimum-là. Et puis, il y en avait aussi parmi eux qui n'avaient pas encore pu communiquer avec leurs familles. Donc, nos équipes ont permis à ceux-là de donner de leurs nouvelles à leurs familles à travers des appels téléphoniques.
Et vous comptez renouveler votre visite dans les prochains jours ?
Absolument. Il est très important que le CICR puisse revoir ces personnes-là autant de fois qu'ils le souhaitent, notamment pendant toute la durée de leur parcours carcéral. Donc, nous restons en contact avec les forces détentrices afin de nous assurer que nous pourrions les revisiter dans les prochains jours.
Est-ce que vous avez pu faire des recommandations aux autorités concernant les conditions d'incarcération ?
Quelles que soient les raisons de leur détention, l'intégrité physique et morale doit être respectée et ils doivent également avoir accès à de l'eau, de la nourriture et aux soins de santé. En ce qui concerne maintenant les recommandations et nos observations, nous les faisons toujours aux forces détentrices, quel que soit le pays ou le contexte où nous le faisons de manière confidentielle dans un dialogue que nous avons avec les autorités ou les groupes détenteurs concernés. En plus de cette visite que nous avons pu mener en faveur des personnes détenues à Kidal, nos équipes également sur place essayent de faire en sorte que la question de l'eau qui pourrait être le prochain problème que Kidal va connaître puisse trouver des solutions. Nous avons également des informations qui ont pu nous parvenir et nos équipes ont pu noter l'arrivée à Gao de quelques centaines de familles et nos équipes se mobilisent actuellement pour voir dans quelle mesure on peut leur apporter une assistance d'urgence. À l'hôpital de Gao, nous avons également une équipe médicale qui actuellement a pu déjà prendre en charge un peu plus de 50 personnes blessées dans le cadre des combats qui ont récemment eu lieu à Kidal.
Valérie Mbao Nana, responsable du CICR au Mali. Nous sommes au Niger pour la dernière partie de l'émission, attendue depuis longtemps. L'accord portant sur le renouvellement du partenariat stratégique entre le groupe français Areva et l'État du Niger pour l'exploitation de l'uranium a été enfin signé à Niamey par le ministre nigérien des Mines, Omar Hamidou, et le président-directeur général du géant français du nucléaire, Luc Oursel. Si chacune des parties a dû faire des concessions, cet accord semble satisfaire le gouvernement comme Areva. Les détails de cette très longue négociation avec notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
C'est un accord juste et équilibré qui satisfait les Nigériens, a indiqué le ministre en charge des mines Omar Hamidou Tiana. Le Niger avait en effet, dans le cadre de ces discussions, trois priorités.
Premièrement, l'application de la loi 2006. Deuxièmement, la gouvernance. Et troisièmement, le développement local. Areva nous a compris et nous a donné satisfaction. Je ne peux que m'en féliciter et les remercier. Nous avons dit que c'est la loi minière 2006 qui va s'appliquer. Et c'est cette même loi qui dit qu'en fonction du ratio sur le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires qui dépendra, est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 9%, est-ce que c'est 12%. Donc bien sûr que ça sera les 12%.
Areva consent donc de se faire appliquer la loi minière de 2006, exigence forte de la société civile active dans le domaine minier, mais les Nigériens vont devoir attendre encore le début de l'exploitation du gisement d'Imouraren, annoncé pour être la deuxième plus grande mine à ciel ouvert d'uranium en Afrique. Luc Oursel, président-directeur général du groupe Areva.
Sur le projet Imouraren, nous avons convenu que la mise en production du gisement dépendra de l'amélioration des conditions de marché. Les prix actuels de l'uranium, très bas, ne permettant pas aujourd'hui une exploitation rentable. C'est la voie de la raison. Ni le Niger, ni Areva, ni les autres partenaires n'auraient d'intérêt à mettre sur le marché une production qui pourrait ne pas trouver preneur et ferait baisser encore les prix de l'uranium. Le comité stratégique paritaire entre l'État du Niger et Areva, qui a été défini dans cet accord, permettra d'analyser régulièrement l'évolution du marché et de nous guider pour choisir la meilleure date de mise en exploitation au moment le plus favorable.
Le géant du nucléaire français Areva s'est par ailleurs engagé à réhabiliter une partie du tronçon qui relie la ville d'Arlit où est exploité l'uranium au reste du pays. Autre engagement, c'est la construction d'un siège social pour la société à Niamey après plus de 40 ans de présence. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Cet accord permettra donc d'accroître la redevance minière pour l'État nigérien, mais l'exploitation de l'énorme gisement d'Imouraren est remise à plus tard. Comment réagit la société civile au Niger? Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ali Idrissa, le coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB à Niamey.
Nous ne pouvons pas, en cet instant, du fond de la convention qui lie le Niger à Cominac à partir d'aujourd'hui, comme étant entendu que cette convention n'est pas encore à notre disposition. Ce que nous demandons au gouvernement nigérien aujourd'hui, tout de suite et maintenant, c'est la publication des conventions Cominac et Somaïr conformément à la constitution de notre pays, pour nous permettre, nous, en tant que citoyens et organisation de la société civile nigérienne, de voir les clauses contractuelles et de pouvoir nous prononcer librement là-dessus.
Mais apparemment, question de faire croître la taxation sur le minerai de 5,5 à 12%.
Mais tout ça, s'il n'y a pas la convention, vous ne pouvez pas juger de cela. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans les avenants et autres, d'autres clauses qui amoindrissent les charges ou bien qui alourdissent les charges pour arriver? Donc c'est pour ça que nous évitons de nous prononcer sur juste le communiqué. Nous voulions voir vraiment la convention et les avenants liés à cette convention pour nous prononcer. Mais d'ores et déjà, une autre clause qui n'a rien à voir avec Cominac et Somaïr, qui est ressortie dans le communiqué, c'est par rapport à Imouraren. Vous vous rappelez bien, quand le président Nicolas Sarkozy était venu au Niger dans le sens de pouvoir signer cette convention, nous avions attiré l'attention des autorités nigériennes pour leur dire que Areva ne pourra pas et ne voudra jamais exploiter tout de suite et maintenant la grande mine d'Imouraren qui sera le deuxième producteur mondial. Ils voulaient juste que ça ne tombe pas entre les mains des Chinois. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Areva qui a signé pour pouvoir mettre en exploitation la grande mine d'Imouraren pour 2012 revient au calendrier grec. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une nouvelle date pour exploiter cette mine. Areva n'est même pas disposé à exploiter cette mine tout de suite et maintenant. Alors que le Niger attend énormément de ressources et le Niger attend la création de beaucoup d'emplois pour les jeunes par rapport à cette mine. Et là, nous demandons au gouvernement nigérien d'être ferme, de retirer purement et simplement la convention Imouraren et le mettre sur le marché international parce que Areva a failli. Si tant est que le gouvernement nigérien ne fera pas cela, nous pensons que le Niger a beaucoup perdu dans le cadre de cette convention.
Ali Idrissa, coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB à Niamey. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Wojtek Zorniak. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Mahamadou Cissé qui interprète la paix. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Thank you.
I'm sorry.